Bienvenue, vous écoutez Fréquence 6. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une émission spéciale en direct d'un vaisseau spatial.
Roger.
Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Car des extraterrestres nous ont enlevés juste avant Noël.
Mais ça ne va pas nous empêcher de vous offrir encore une émission fantastique. Et sans attendre, commençons avec Laura, qui nous parlera d'une association en Afrique.
Le reportage que je vous propose aujourd'hui vous invite à découvrir une association française installée dans le village de Niagapel au Sénégal, nommée les Loustics ou le Baobab. Cette association a pour objectif de contribuer à la scolarisation des enfants du village de Niagapel. Oumi Sara, Lily et Chloé, les trois jeunes fondatrices des Loustics ou le Baobab, ont pris conscience des nombreuses inégalités dans le monde et elles ont décidé d'agir et de faire de leur mieux pour en réduire quelques-unes, en particulier celles qui affectent les enfants. Les Loustics ou le Baobab s'est joint à une association locale sénégalaise, l'Enfant d'abord. Ces deux associations travaillent ensemble. L'Enfant d'abord a créé une école, l'école Yaye Mariamaba, pour tous les enfants en 3 à 15 ans. À Niagapel, presque 95% des enfants sont issus de familles démunies du village, spécialement de l'ethnie Peul. Leurs parents étaient d'anciens éleveurs nomades sédentarisés et ne sont pas vraiment allés à l'école. Les conditions de vie sont difficiles chez eux. De nombreux enfants ont des problèmes de santé et la malnutrition est courante. À l'école, les enfants sont sensibilisés à l'environnement et à l'égalité entre les filles et les garçons. Les filles et les garçons contribuent également à l'entretien de l'école. Ils se rendent compte de l'inégalité scolaire qui affecte les filles. En effet, les travaux domestiques chez elles les rendent indisponibles pour l'apprentissage. À l'école, il y a une classe composée seulement de filles pour améliorer leurs études et diminuer les mariages précoces. L'association Les Loustics ou le Baobab a créé un système de parrainage qui permet à n'importe qui dans le monde de faire un don qui finance les goûters, les fournitures scolaires, le salaire des professeurs et plus encore. S'ils le veulent, les donateurs peuvent également écrire une lettre destinée à l'enfant qu'ils parrainent. Pour ma part, je suis très impressionnée et touchée pour les actions de ces deux associations. Elles font une grande différence pour tous les enfants du village et je trouve que c'est important d'en parler. Je remercie spécialement ma voisine pour m'avoir parlé de ces associations. J'espère que ce reportage vous a montré qu'il y a de belles initiatives qui existent. Merci d'avoir écouté.
Qui dit école, dit prof. Je crois que tout le monde s'est déjà demandé ce que pouvait bien être la vie d'un prof. Justement, Sybille et Chloé ont enquêté pour vous.
Auditeurs, auditrices.
Vous êtes-vous déjà imaginé dans la peau d'un professeur ?
Aujourd'hui, nous allons vous faire vivre une journée dans la vie d'un enseignant.
Savez-vous que derrière l'apparente sévérité de certains professeurs se cache un véritable bonheur d'enseigner ?
Nous sommes partis enquêter sur ce qui se passait pendant les journées de vos professeurs préférés. Nous avons interviewé Julie Chabal, professeure de CM2. Écoutons-la.
Siffles-tu dans les couloirs ?
Pas du tout.
Mais par contre, j'adore chanter.
Lorsque tu arrives à l'école, quelle est la première chose que tu fais ?
Je pose mes affaires dans la classe. Ensuite, généralement, je vais en salle des professeurs et je prépare le café. Et je dis bonjour à mes collègues, parce que c'est important.
Est-ce que tu préfères faire cours debout ou assis ?
Ouh, alors, généralement, je suis très peu assise derrière mon bureau, à part quand je corrige des cahiers. Et j'aime beaucoup me déplacer dans la classe, parce que j'aime être à côté de mes élèves, voir ce qu'ils font, aller leur parler, vérifier leur écriture, s'ils tiennent bien leur cahier. Mais ça m'arrive de m'asseoir quand même si j'ai mal au dos, ou si j'ai mal aux pieds.
Est-ce que tu préfères corriger au lycée ou chez toi ? Et combien de café prends-tu dans la journée ?
Alors, corriger au lycée. J'ai horreur de rapporter les cahiers à la maison. Déjà, c'est lourd, donc ça me plaît pas. Et combien je bois de café dans la journée ? Un le matin qui me dure jusqu'à 11h30, alors il est froid, c'est pas grave. Et parfois un le midi après le repas si j'ai mon carré de chocolat pour manger avec.
Lorsque tu quittes l'école, quelle est la dernière chose que tu fais ?
Lorsque je quitte ma classe, j'éteins les lumières. Poup, je ferme la porte, et puis je dis au revoir aux collègues qui restent, et je ferme le portillon quand je m'en vais.
Quel est ton lieu préféré au lycée ?
J'aime beaucoup le CDI. Je trouve que c'est un endroit paisible, c'est toujours calme, souvent calme quand je passe. J'aime bien cet espace.
Un objet personnel qui ne te quitte jamais ?
Alors je pourrais même pas te dire mon téléphone parce que je l'ai jamais sur moi. Les clés de l'école sont toujours suspendues à mon cou, effectivement, avec mon badge.
Et qu'est-ce que tu perds toujours, que tu cherches toujours ?
Toujours rien.
Comment organises-tu un cours type ?
Généralement, donc on va partir du principe que c'est un nouveau cours, que les élèves ne savent pas de quoi on va parler, qu'on commence quelque chose. Donc je fais un petit exemple, une première accroche, et puis je demande aux élèves s'ils ont compris de quoi on va parler. Après, j'aime bien faire des petits jeux avec les enfants à l'oral où j'ai ma balle de tennis, Sybil s'en rappelle certainement, où je lance ma balle aux élèves pour qu'ils répondent aux questions. Et alors ça, c'est la mise en route. Après, on fait la leçon et puis après, il y a des exercices d'application sur le thème qu'on aborde.
As-tu peur de manquer de temps ?
Je manque toujours de temps quand je fais des cours. La journée n'est jamais assez longue. J'ai toujours l'impression de courir. Alors j'essaye de faire tenir mon cours dans le temps imparti, mais c'est généralement compliqué. J'ai souvent peu de temps pour tout faire.
Quels sont tes aspects préférés du métier ?
Être avec les enfants, être avec les élèves, partager avec eux, leur transmettre ce que je sais, apprendre des choses d'eux aussi, parce qu'on apprend tous les jours, partager.
Et qu'aimes-tu le moins ?
Faire la police, avoir les élèves qui bavardent et qui n'écoutent pas les consignes, répéter les règles particulièrement quand je leur dis « attendez avant de prendre la parole, que je vous la donne » ou des choses comme ça.
Voilà, c'est tout pour les questions. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre.
Merci beaucoup Sybil et Chloé, ça m'a fait plaisir.
Bonne journée.
Bonne vous journée. Aussi.
Bonne journée les filles.
Pas facile, en effet, d'être un enseignant. On passe beaucoup de temps à l'école dans sa vie, quand même. Maintenant, Chiara, Sophie et Inès ont choisi de nous parler d'une fête bien étrange. Nous allons donc voyager jusqu'à l'année 1643, à Lyon, où tout a commencé.
En effet, Félix, savez-vous ce qu'il se passe à Lyon chaque 8 décembre ? Et la fête des Lumières, la connaissez-vous ? Elle a été créée en 1643 à cause de la peste.
Mais laissons M. Trapeau, qui a vécu à Lyon quand il était petit, nous en apprendre plus.
Bonjour M. Trapeau.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les Lyonnais font la fête le 8 décembre ?
Alors d'abord, merci de m'avoir invité. Cette fête du 8 décembre, elle a pris naissance au XVIIe siècle, en 1643. À l'époque, il y avait à Lyon une épidémie de peste. C'est ce que c'est que la peste, peut-être, ouais. Une maladie, on en mourait à cette époque. Les Lyonnais, puisqu'à cette époque on était très croyants et pratiquants, ont demandé à la Vierge Marie de les protéger. Depuis, en remerciement le 8 décembre, les Lyonnais mettent sur le bord de leurs fenêtres des petites bougies.
Merci.
Donc c'est au départ une fête religieuse.
Pouvez-vous nous dire quels sont les symboles de cette fête ?
Les gens qui sont très croyants et pratiquants vont aller à l'église ce jour-là. Ceux qui ne le sont pas, qui ont pris cette fête comme une fête culturelle quelque part et sans forcément qu'il y ait un aspect religieux derrière, vont mettre sur les bords des fenêtres des petites bougies dans ce qu'on appelle des lampions. Toutes les fenêtres des immeubles lyonnais, puisque c'est une ville, donc il y a beaucoup d'immeubles, sont éliminées parce que c'est mis sur le rebord. Et une fois qu'on a mis les bougies, le soir, on va se promener dans les rues de Lyon parce que c'est éclairé partout par des bougies. Comme c'est l'hiver, hein, il fait froid, c'est la nuit. Vous avez tout un tas de petits vendeurs de marrons, comme ceux que je vous ai apportés ici, qui vendent ça dans des cornets de feuilles de journaux, comme un cornet de frites, et dedans, eh bien, on achète des marrons, ou ce qu'on appelle des marrons, mais en vérité, ce sont des châtaignes. D'abord, ça nous réchauffe, et puis ensuite, on pouvait les mettre dans nos poches, et on mettait nos mains, ça faisait comme des chaufferettes.
Pouvez-vous nous raconter vos souvenirs du 8 décembre ?
Ah bah mes souvenirs du décembre, j'ai déjà commencé à les raconter. C'était bien parce que ça commençait à marquer le fait que Noël s'approchait bientôt. Il y avait plein de monde partout, plein de monde. Vous aviez des petits spectacles de rue aussi qui étaient présents. Moi j'avais l'impression toujours que c'était, on marchait longtemps dans la nuit, mais en fait pas longtemps parce que j'avais école le lendemain. Donc. Et bien évidemment, j'attendais avec impatience le vendeur de marrons. Alors je disais toujours que j'avais froid pour être sûr que mes parents m'achètent des marrons, même si j'avais pas froid. Et voilà, aujourd'hui ça a pris un autre sens cette fête. C'est devenu des spectacles faits par des professionnels où la ville de Lyon, tous les bâtiments importants de la ville de Lyon sont éliminés, mais pas par des bougies, par des lumières artificielles. Mais c'est assez beau, hein. Enfin, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé en même temps, mais la dernière fois c'était en 2005 et c'était déjà une fête qui durait pas une journée d'abord.
Les lampions.
Les lampions, c'est juste le 8 décembre. Mais la fête, aujourd'hui, elle dure 15 jours à peu près. Mais les lampions, c'est une journée, c'est le 8 décembre. Ça, c'est sûr. Et ça changera jamais.
Est-ce que vous le fêtez avec toute la famille ?
C'est trop court pour que ce soit vraiment une fête familiale et souvent ça tombe la semaine, donc tu peux pas faire quelque chose de très très long. Mais quand vous êtes petit, que vous êtes en pleine semaine, que normalement vous vous couchez tôt parce qu'il y a école le lendemain et qu'on va vous sortir dehors pour aller se promener, voir des bougies partout et manger des châtaignes, c'est déjà magique, hein, ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. Maintenant si vous voulez goûter les châtaignes, alors imaginez qu'elles sont bouillantes, vous pouvez l'éplucher. Alors ce qu'il faut savoir c'est que aussi j'allais en ramasser des châtaignes.
Oh ça devait être bon.
Et ouais c'était bon dans du lait.
Ouais.
Il y en a qui en ont déjà mangé ?
Oui.
Non.
Ouais.
Jamais. J'en ai déjà mangé.
En vrai, ça fait un peu farineux.
C'est sûrement pas aussi bon que celles qui sont faites à Lyon.
Maintenant, Juliette est lyonnaise de la famille. Elle va nous raconter le 8 décembre canadien.
Je m'appelle Juliette, je suis en première, je suis française et canadienne et ma famille se trouve à Lyon depuis des générations et des générations. Moi, j'ai une tradition qui est un peu plus éloignée de l'original puisque établie au Canada, je n'ai jamais fêté la fête des Lumières à Lyon.
Que représente pour ta famille et pour toi le 8 décembre?
Pour ma famille, je dirais que c'est une tradition qui s'est transmise de génération en génération. Ma grand-mère, elle y est très attachée, c'est quelque chose qu'elle prend vraiment à cœur.
Qu'est-ce que vous faites de particulier ce jour-là?
On fait des crêpes, c'est vraiment quelque chose de typique chez nous, les crêpes françaises. Que ce soit les crêpes très fines ou des grosses pancakes, ça dépend des goûts de tout le monde. Mais je dirais qu'on passe du bon temps en famille surtout. Ma grand-mère va avoir tendance à prier parce que c'est un certain côté religieux. Mais autrement, c'est pas mal ça. Puis les petites lumières qu'on met dans les fenêtres, bien évidemment.
Tu passes la fête du 8 décembre ici au Canada?
Oui, comme je l'ai dit au début, je n'ai jamais fait la fête des lumières à Lyon en fait. J'ai toujours vécu virtuellement. Et du coup, toutes mes expériences du 8 décembre sont canadiennes. Chaque année, c'est ma famille qui m'appelle en FaceTime et me montre c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font. Ils se promènent à Lyon, ils me montrent la fête. Toute ma famille maternelle est au Canada. Ma grand-maman maternelle, mes tantes, mes oncles, ils sont tous au Canada. De mon côté paternel, j'ai mes autres tantes, mes autres oncles, mes cousins, mes cousines, mes grands-parents. Et ils se trouvent en Lyon ou dans les petits villages autour de Lyon qui eux aussi fêtent la 8 décembre.
Donc parfois tu le fais avec tes amis?
Oui, j'ai quelques amies qui sont françaises, qui, en me connaissant à travers le temps, ont appris c'était quoi le 8 décembre, parce que, comme vous le savez, c'est typiquement lyonnais. Ça se trouve pas partout en France. Et du coup, grâce à mes connaissances, on a pu partager ce moment. Et le 8 décembre, je l'ai fait aussi avec mes amis, c'était très amusant.
Merci.
De rien.
Alors, merci d'avoir partagé cette fête avec nous, et longue vie à la fête des Lumières.
Nous sommes revenus de ce merveilleux voyage dans le temps.
Maintenant, passons à un événement qui va nous plonger dans l'esprit de Noël, avec Emma et Maya qui vont nous parler de Casse-Noisette.
Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler d'un ballet célèbre, Casse-Noisette.
Ce ballet russe a été créé par Piotr Tchaïkovski, un célèbre compositeur russe.
Vous connaissez sûrement déjà Clara et Casse-Noisette, les personnages principaux.
Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas grave, car on va vous expliquer l'histoire en détail.
Les personnages autres que Casse-Noisette sont Fritz, qui est le frère de Clara.
Il y a aussi le prince Orgea, qui est un nom très étrange, et la fée dragée, qui est célèbre pour sa danse et la musique qui l'accompagne. La danse de la fée dragée. Original, non?
Clara, la nuit de Noël, se fait donner un Casse-Noisette de la part de son oncle, l'oncle Drosselmeyer.
La nuit tombée, Clara dort dans le salon avec son casse-noisette.
Soudain, des rats surgissent d'un trou dans le mur. Et attaquent le casse-noisette. Avez-vous deviné pourquoi?
Le casse-noisette prend leur vie et tue le roi des rats. Puis se transforme en prince et emmène Clara dans un monde magique.
Maintenant, on va interviewer un témoin qui a vu casse-noisette.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de la web radio du lycée Claudel. Aujourd'hui, on va interviewer Madame Eliane Dumont, qui va nous dire un peu des choses sur le ballet de Casse-Noisette. Quand avez-vous vu Casse-Noisette?
J'ai vu Casse-Noisette 3 fois. La dernière fois, c'était il y a environ 5 ans.
Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous ce ballet?
Ah, je trouve que c'est un très beau ballet, je lui donnerais définitivement un 9. Les décors, surtout celui des grands ballets canadiens à Montréal, la qualité des danseurs, la beauté des costumes, bref tout.
C'est quoi votre moment préféré?
La danse de la fée dragée.
Et pourquoi?
C'est un moment où il y a un solo où les personnages sont entourés de desserts, de bonbons, sans compter évidemment la musique.
Et quel moment n'avez-vous pas aimé?
L'arrivée des petits rats, l'arrivée de l'armée du chef des rats. Ça, j'aime pas ça du tout.
Et pourquoi?
C'est un moment qui est très noir en comparaison à tout le reste du ballet. Parce que là, il y a évidemment la grande bataille avec Casse-Noisette qui va perdre dans son effort pour défendre Clara. C'est pour ça que j'aime pas ce moment-là du tout.
Quelles émotions avez-vous senties quand vous avez assisté à la représentation?
La première, c'était un émerveillement devant la beauté de la musique. Ensuite de ça, quand je suis allée voir celui des grands ballets canadiens, j'ai trouvé que les costumes et les décors étaient absolument majestueux. Surtout que dans celui-là, il y a un arbre qui grandit, alors il prend de plus en plus d'espace sur la scène. C'est absolument magnifique. Ça nous fait sentir qu'on rapetisse au fur et à mesure que l'arbre grandit.
Alors, merci d'avoir accepté de me laisser vous interviewer.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève la 2e émission des 6e de cette année. Merci à tous ceux qui ont accepté de répondre à nos questions.
On espère que vous avez aimé notre émission. Au nom des élèves de 6e, technicien, musicien, présentateur et bien entendu journaliste qui ont participé à ce programme, on vous souhaite à tous de belles fêtes!
Avant qu'on ne parte, on va vous plonger dans le monde de la magie avec un extrait de musique joué par Maya, la danse de la fée dragée.